Hop là, Erev Tov, les coulames. J'ai entendu 125, 132, on ne peut pas savoir, puisque tout le monde n'a pas la même édition du Chumash, donc c'est un problème. Exactement, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors, Erev Tov, les coulames. On revient à notre étude du livre de Shemot. Et on est arrivé, Besha Tova Umtzlachat, Beperek Yud Gimel, au verset Yud Zayin. Je pourrais vous dire que chez moi, c'est la page 62, mais ça ne change rien. Et je pourrais aussi tricher en vous disant que c'est le début de la parashat Vaish Beshalach. J'allais dire Vaishlach. Beshalach. Ça a l'air. Donc, c'est facile à se repérer ce soir. Perek Yud Gimel, chapitre 13, verset 17. Ok ? Donc ça y est, on sort d'Égypte. Zéro. Après tout ce temps, seulement, ça commence tout de suite par quelque chose de... Comme on dit en arabe, c'est « past nicht ». Ce qui veut dire en bon arabe, on aurait pu s'attendre à autre chose. Puisqu'on nous dit « Vayi beshalach paro et ha'am ». C'est-à-dire que celui qui nous envoie... renvoie, c'est Pharaon. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est évident, qui tu veux que ce soit. Mais la notion de l'échaléar veut dire également accompagner. On voit ça avec Abraham, lorsqu'il raccompagne les anges, après leur avoir parlé dans la paracha de Vayera, Vayler itam l'échaléham. C'est-à-dire qu'il les accompagne. Ici, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nos sages vont nous expliquer que Pharaon avait mis des gardiens, si tu veux, pour accompagner les Béné Israël, en fait, pour être bien sûr qu'ils fassent ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire.
Il n'y a pas que ça, le problème.
Oui.
La Gada, on nous dit l'eau à l'île des Chaliars, l'île des Malards.
Ah, non, attention. C'est lui qui a frappé l'Égypte, l'eau à l'île des Malards, l'eau à l'île des Chaliars.
Mais qui nous a fait sortir d'Égypte.
Non, on parle de Makat Bechorot, l'eau à l'île des Malards, l'eau à l'île des Chaliars. C'est pas tout le processus. Parce qu'au contraire, tout le processus, justement, on veut que Pharaon y participe. Et donc, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit au tout début de notre histoire des diplés? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a tellement envie que Pharaon participe? Eh bien, parce que la Géoula doit être la Géoula du monde. Donc, le représentant du monde doit y participer. Donc, c'est normal, quelque part, que Vayi Beshalach Paro. Ceci étant, nous lui sommes donc redevables.
C'est un peu curieux, ces gardiens étaient accompagnés des bois alors qu'ils sont morts dans la macabre.
Bah, tout le monde n'était pas premier-né.
Ils n'ont pas ressuscité.
Mais tous les gardiens n'étaient pas premiers-nés. Ah, Makat Bechorot, c'est que les premiers-nés. Et le deuxième, le troisième, le septième de la famille, ils sont pas morts. Donc, veuillez bêcher la parole. Maintenant, cette dimension de « on lui est redevable, on lui doit quelque chose », on va le retrouver dans la Mishnah. Dans la Mishnah, dans le traité de Edouyot, eh bien, on nous parle d'un cas très bizarre. On nous dit, qu'est-ce qui se passe au sujet d'un Eved, d'un esclave, qui appartient à deux Shutafim? Ça peut arriver. À l'époque... Pardon?
Un esclave pour deux personnes.
Voilà, il appartient à deux maîtres. En fait, qu'est-ce qui s'est passé?
Je croyais qu'il ne pouvait pas appartenir à deux maîtres.
Non, là, je te parle au niveau d'un... tu vas au marché aux esclaves. Ok, tu as envie de faire un cadeau à ta chère et tendre, et tu as envie d'amener à la maison de quoi faire les travaux ménagers. Ça a l'air. Donc tu viens et tu veux acheter un esclave tout frais qui vient d'arriver, il n'a encore jamais servi, sympa. Donc tu arrives au marché aux esclaves et tu vois, ah, voilà, ça c'est exactement ce qu'il me faut. Il y a un article, il y a une super promotion, nouvel arrivage, machin. Mais il est quand même un petit peu trop cher pour toi. Au même moment, il y a notre ami qui arrive également, il veut un esclave. Il est aussi un peu trop cher pour lui. Ben vous faites un accord, moi je paye moitié et toi tu payes moitié. Ben voilà, dimanche il est chez moi, lundi il est chez toi, mardi il est chez moi, il est chez toi, on s'arrange. Donc l'esclave appartient à deux maîtres. Chavma Koré, si jamais, à un moment donné, l'un des deux maîtres décide de le libérer. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que cet esclave devient Chetzio Eved, Vechetzio Ben Chorin. Il devient moitié esclave, moitié libre.
C'est-à-dire qu'il travaille à mi-temps.
Alors, on pourrait dire, bon ben très bien, alors on n'a qu'à faire ça. Il travaillera à mi-temps, à Koltov. Pardon ?
Il devient juif aussi.
Et il était déjà juif à la base. Disons qu'il était déjà juif à la base. Ça a l'air. Mais là, et même si c'est un Eved Ketan, il n'a jamais. Il est devenu juif, ok, ça va. Mais maintenant, quel est le problème ? Agave, c'est un truc qu'il ne faut pas dire aux gens. Ouais, tu dévoiles des secrets, on n'a pas hâte de dévoiler ce genre de secrets. Parce que tu sais, aujourd'hui, la conversion est quelque chose de très très compliqué. Il y a plein de gens qui ont des réticences, ils ne veulent pas se convertir parce qu'ils savent que se convertir, c'est très difficile. Il y en a même qui vont flirter avec le mouvement libéral parce que dans le mouvement orthodoxe, c'est trop dur de se convertir. Alors qu'en vrai, d'après la halakha, se convertir, ça dure 5 minutes. On se convertit en 5 minutes.
En non.
Ça ne suffit pas d'aller dans la piscine. Ça ne suffit pas. 5 minutes.
Non, je ne suis pas d'accord parce que le converti doit prendre la cachette.
Pas du tout, pas du tout. Je te donne un secret pour que tu puisses convertir les gens en 5 minutes. Mais tu le répètes à personne, d'accord ? Tu me promets.
Pas filmé, heureusement.
Pas du tout. Donc, comment on fait ? C'est très simple. Je n'ai qu'à l'acheter, cette personne. Moi, je suis juif. J'achète la personne en esclavage. Et ensuite, il se vend à moi en tant qu'esclave. Je l'achète pour, je ne sais pas, aller, on va dire, 100 shekels. Il se vend à moi. Il est mon esclave. On a un contrat d'esclavage et tout ce que tu veux.
Hein? Avec témoin ?
Ouais, si tu veux, témoin, pas besoin. J'ai un contrat, ça suffit. Donc, je l'ai acheté comme esclave. C'est mon esclave. Et 5 minutes plus tard, je le libère. Mais Eved Meshuchar, il devient tout de suite juif.
Il y a des pays où c'est interdit.
Ah, tu dis que l'esclavage est interdit.
Dans certains pays, alors il y a possibilité d'aller dans une...
Ah, tu dis, voilà. Je peux aller dans un autre pays où ça commence à faire cher l'esclave.
Non, non, c'est une ambassade.
Ah, l'ambassade.
Oui.
Ah, c'est une idée. C'est une idée.
Il va chez les réformés.
Ah, tu dis pas aller chez les réformés, c'est encore plus rapide. Non, non. Mais Kitzor, là, dans notre histoire, qu'est-ce qu'on fait ? Il est moitié esclave, moitié Ben Chori. Alors, Machloket, Bet Hillel, Bet Shammai. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, qui dit, nous, on colle pas ça d'air. Yavod et Atzmo Yom Echad, va être Rabo Yom Echad. Hein ? Ah oui, mais deux secondes. D'abord, je cite la Mishnah en hébreu, et ensuite, je la traduis. Ah là 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 là, quand est-ce qu'on pourra faire le cours en hébreu ? Bekit, amen. J'attends votre Yishur. Hein. Je vous l'ai déjà dit depuis le début de Bereshit, je vous dis, j'attends le Yishur. Il semble que si moi je ne prends pas la décision, ça ne se fera pas avant Sefer Melachim Bet. C'est-à-dire... Bon, on verra bien.
Ou
divrei
Yamim.
Bekitzo.
On peut commencer Khatsi-Khatsi. Comme l'esclave.
C'est ça, comme l'esclave, on fait Khatsi-Khatsi. Quoi qu'il en soit, donc, la première avis qui est donnée, c'est de dire, eh ben, pas de problème, comme tu proposais, il va travailler pour son maître un jour, et le lendemain, il travaille, ce qu'il gagne, c'est pour lui. Là, Bet Shammai, ils disent à Bet Hillel, ah, c'est bien gentil ce que vous me dites, mais et rabo tikantem, aval et atzmo lo tikantem. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour faire du bien à son maître, parce que comme ça, son maître, celui qui est toujours son maître, il perd rien, mais lui, la personne, elle est dans la mouise. Pourquoi elle est dans la mouise ? Parce qu'il ne pourra pas se marier. Parce qu'il ne peut pas épouser une femme libre, parce qu'il est moitié esclave. Il ne peut pas épouser une femme esclave, parce qu'il est moitié libre. Il faudrait qu'il se marie avec une femme moite-moite. Semble-t-il que c'est tellement rare qu'on dit que ce n'est pas possible. Donc, comment on fait ? On dit « Vekola olam lo nivra ella bishvil piriya verivia » Le monde entier a été créé uniquement pour la procréation. Donc, comment tu vas empêcher une personne de se marier ? Donc, non. Donc, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?« Kofim et rabo ou meshacher oto » On oblige l'autre maître à le libérer pour qu'il soit complètement libre. Ah, mais l'autre maître, il n'avait pas envie. Il dit, Altidag, Kotev lo shtar al chatsidama. Il lui écrit une reconnaissance de dette. Il dit, voilà, j'aurais dû travailler chez toi encore pendant 20 ans. J'aurais dû donc te donner tant et tant d'argent. Ben, je te rendrai. Tous les mois, je te rends un petit peu et ainsi de suite. OK ? Donc ça, c'est au niveau de la halakha. Mais cette halakha, elle n'est pas simplement... une halakha sèche.
Il ne pouvait pas aller travailler chez lui, mais gratuitement, sans être payé.
Bah, ça peut être un deal qu'ils vont faire ensemble. Pourquoi pas ? Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Eh bien, ici, cette halakha, elle n'est pas simplement un cas technique. Am Israël, il était Eved de deux choutafim. Am Israël, le peuple juif, était l'esclave de deux maîtres. D'un côté, c'est Dieu qui a décrété qu'on allait être esclave. De l'autre, on était concrètement les esclaves de Pharaon. À un moment donné, Dieu a décidé de nous libérer. Il a été obligé d'imposer à Pharaon de nous libérer. Mais on lui doit quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui doit ? Eh bien, de lui montrer qu'il ne nous a pas libérés pour rien. Que véritablement, on met en pratique le rôle qu'on a à jouer en tant que peuple parmi les nations. Et vous comprenez maintenant pourquoi les pharaons de toutes les époques, y compris aujourd'hui, ont des grands problèmes avec nous lorsqu'on ne se comporte pas comme ils attendent qu'on se comporte. La pire chose que le peuple juif puisse dire au monde, c'est que nous sommes comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est pas pour ça qu'ils nous ont... pour ça, pour être un pays comme les autres, vous nous avez fait tous les problèmes au Moyen-Orient. Raval. Donc, Vayei Beshallach Paro et Am. Je vais relire le verset. Et je vais vous demander, Bevakasha, je vais lire en fait les deux versets, les deux premiers versets de la paracha. Et je vais vous demander de mettre en surbrillance un mot. C'est-à-dire un mot qui pourrait revenir plusieurs fois dans le verset. Ok ? Alors allons-y. Vayei Beshallach Paro et Am. Velo Nacham Elohim Derech Eretz Pelishtim Ki Karov Hu. כי אמר אלוהים פן ינחם העם בירותם מלחמה ושבו מצרימה ויסב אלוהים את העם דרך מדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. יורטיל, המו קירוביין פליזור פועה, וולה, העם, איזקטמו. Alors, jusqu'à présent, on avait dit que העם, c'est le ערב רב. נכון? On se rappelle. Là, on va voir que c'est pas que. C'est-à-dire qu'ils sont évidemment présents dedans, parce que maintenant ils font partie intégrante du peuple juif, ça y est. Mais le fait que le mot « Am » revienne plusieurs fois fait référence à différentes parties du peuple juif.
De l'individu, qu'avant la sortie des Chypres, le peuple, les n'était pas considéré comme un peuple à part entière.
Pourquoi tu dis ça ?
C'est une multitude d'individus.
Pas du tout, on était déjà un peuple. Bien sûr qu'on était déjà un peuple avant. La preuve, c'est qu'au tout début du livre de Shemot, lorsque Pharaon va commencer les premiers décrets contre les Juifs, il dit à son peuple, « Yesh am bene Israël ram ve'atsumimenu. » Donc on est déjà considéré comme un peuple au tout début de l'histoire. C'est-à-dire ? Donc il y a plusieurs parties de ce peuple, plusieurs personnes qui se revendiquent appartenant à une autre section du peuple juif. Quelles sont ces différentes sections ? Eh bien, regardons ce qui est marqué dans le texte. Le premier « am », c'est celui qui est « meshulach aliede pharaon ». C'est-à-dire qu'il y a une partie des Juifs qui sont sortis d'Égypte uniquement parce que Pharaon les a chassés. Ils étaient très bien en Égypte. Alors, ils ne sont pas aussi intégrés que ceux qui sont restés, Bichlal là-bas, mais quelle était la différence entre celui qui est resté en Égypte et celui qui aurait bien aimé rester, mais bon, il a dû partir ? Vous savez quelle était la différence ? C'est qu'il s'appelait Cohen. Où il s'appelait Goldberg, où il s'appelait Ben Soussan. C'est-à-dire qu'il était très bien intégré, mais bon, quand même, on savait qu'il était juif. Donc à un moment donné, quand on a chassé les juifs, eh ben, il aurait bien aimé, mais en mal à sot, il part avec. Alors que celui qui, déjà depuis quelques générations, avait changé son nom et s'était appelé Leblanc, ah lui, peut-être qu'il est passé inaperçu. Il a pu rester en Égypte. Mais on a ici des gens qui fuient l'exil parce qu'ils en sont chassés. Toute ressemblance, évidemment, avec des cas qui se seraient passés plus tard dans l'histoire juive serait évidemment purement fortuit, involontaire, bien sûr. Mais combien on a de juifs qui ne seraient jamais partis d'Espagne s'il n'y avait pas eu l'expulsion des juifs d'Espagne, qui ne seraient jamais partis de France s'il n'y avait pas eu l'expulsion des juifs de France, s'ils ne seraient jamais partis de Pologne s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé en Pologne. C'est-à-dire ? Donc on a une première partie du peuple juif qui est partie d'Égypte à contre-cœur. Il semble-t-il qu'il y a des juifs qui étaient tellement assimilés que même Pharaon ne savait plus qu'il était juif. D'ailleurs, même lui, il ne savait plus qu'il était juif.
Il y a quand même un élément qui est différent, qui fait la différence entre là où on est,
ouais. Et aujourd'hui.
Non, et les événements d'après.
Oui.
Après, c'est-à-dire le juif d'Espagne.
Oui, j'entends bien.
Là, on a affaire à des gens quand même qui ont vécu
tout
ce qui s'est passé. Avant le départ.
C'est-à-dire, comment tu peux, après avoir vu les diplômes, après avoir donné un genre, continuer à être comme ça ? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est encore plus accusateur.
Enfin,
je suis d'accord avec toi. 100%. Donc ça, c'est la première partie. « Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karov hu » Il ne les a pas fait passer par le chemin des Pélishtim. Et Fosé.
Gaza.
Ben oui, Gaza. La bande de Gaza. Ils sont en Égypte. C'est quoi le plus court chemin pour aller en Israël?
Mais quoi, c'est le deuxième groupe, ça?
Oui. Mais d'abord, concrètement, le verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Dieu ne les a pas fait passer, les Bnei Israël en sortant d'Égypte, par Eretz Pelishtim.
Le chemin
le plus direct, c'était de monter le long de la côte, passer par la bande de Gaza et arriver à Tel Aviv. Hein?
C'est pas loin.
Et on a fait tout un tour et tout, machin. Lama, elle dit, « Ben yinachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayim. » C'est-à-dire que pour ne pas que le peuple, cette deuxième section, ne voit la guerre. Mais c'est la guerre. Bah, Eretz Pelishtim, il y a des gens là-bas. Donc il va falloir faire la guerre avec eux. Ils ne sont pas prêts. Chazal va nous dire une autre chose. D'après le Midrash, il y a un groupe de juifs, des années avant que Moshe arrive, qui étaient les Béné Ephraïm, qui ont dit « c'est le moment de partir d'Égypte ». Et ils se sont organisés tout seuls et ils ont fui l'Égypte. Et quand ils sont arrivés derrière Eretz Pelishtim, ils ont été massacrés par les Pelishtim. Et les corps étaient toujours là-bas. Donc on ne voulait pas qu'ils voient la non-réussite d'une tentative de sortie d'Égypte. C'est ça ?
Il y en a aussi qui disent car au bout, c'est que les Pelishtim, ils ressemblaient aux
Israélites. Aux Israélites, bien sûr. Hey, les Plishtim, ils sont baïsors chez l'âne.
Non, je parle pas de géographie.
Non, toi tu parles au niveau de Derech Eretz. Velor, c'est ce que dit le verset, que Dieu il a pas voulu. Velor Nacham Elohim, Derech Eretz chez la Plishtim. Il voulait pas que les Bnei Israël ils passent par les qualités, les valeurs des Plishtim. Parce que Bémet, c'est calmeode de tomber dans le Plishtiout. Parce que c'est Karov. Ok? Donc, bien sûr, mais ça veut dire que cette deuxième section, elle a peur de la difficulté. C'est-à-dire que ce sont des Juifs qui sont prêts à faire leur alia à une seule condition.
Mais pardon.
Ils sont prêts à faire leur alia à une seule condition. C'est que ce soit facile. S'il y a des problèmes, non. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à faire mon alia, pas de problème. Mais tu m'as déjà trouvé l'appart, tu m'as déjà trouvé le travail... Que tout est organisé, tout est bien truc. Attends, moi je vais devoir aller pendant un an dans un Mercas Clita. Je vais devoir apprendre les boules. Moi que dans un truc avec que des Français. Hein, parce que sinon, ça va. Hein. Quoi? Je vais devoir apprendre l'hébreu pour aller travailler avec des Israéliens? Non, call center ou rien du tout. Attends, c'est pas possible. S'il y a un problème, si c'est trop dur, attends, les Israéliens. Attends, ils n'ont qu'une politesse, ils doublent dans la queue, et puis c'est quoi la paperasse, la bureaucratie israélienne, merci beaucoup, on est quand même beaucoup mieux en France. Hein? Ah, la Belgique vient d'interdire la shrita. Bon ça va, c'est pas la Belgique, c'est bon, c'est pas la France. Hein. Jamais la France, ils feront ça.
Non.
Ah, tu n'en sais rien. Mais il y a une autre partie des Juifs qui sont prêts à partir, mais à une condition, c'est que ça se passe bien, facilement. Nous. J'ai dit toute ressemblance avec des cas actuels, évidemment. Vayasev Elohim et Taham derech Amidbar Yamsouf. Dieu a fait passer ce troisième partie du peuple par le Midbar Yamsouf. Bon, il a fait. Il faisait Midbar Yamsouf. Il faisait.
C'est la grande question.
Bon, non, là pour le coup, c'est pas tellement une grande question. Non, mais tu peux chambouler. Je sais que toi, tu penses que c'est du côté est de la mer.
Désert, c'est la péninsule.
Mais de Yam Souf. Donc là, si tu veux, on n'a pas tellement de moyens de se tromper. C'est toute la péninsule qui va de ce que nous, on appelle le désert du Sinaï, jusqu'à englobe également la Jordanie. Enfin, le sud de la Jordanie. Si tu veux que nous, on appelle ça le désert du Sinaï que le côté est, c'est pour des raisons politiques. En fait, topographiquement... Et géographiquement parlant, c'est la même région.
En fait, c'est l'Arabie Saoudite.
Il y a l'Égypte, il y a la pointe de la Jordanie qui touche le tabac et tout ça, et ensuite derrière, il y a l'Arabie Saoudite. Tout ça, c'est la même zone géographique. Okay, c'est comme aujourd'hui, quand tu vas à Jérusalem, tu appelles le mont des Oliviers et le mont Scopus. Aratsophim va Arazetim. Tu donnes deux noms de deux montagnes différentes. En fait, c'est la même montagne. C'est exactement la même montagne. C'est la même chaîne de montagnes, topographiquement parlant. Il n'y a pas une vallée entre les deux. C'est juste que pendant un temps, eh bien, les Israéliens ils étaient que au niveau de Aratsophim et ils n'étaient pas au Arazetim. Donc ils ont appelé ça Aratsophim. C'est l'endroit où on peut voir le mont des Oliviers et le reste de la vieille ville, machin, parce que pour l'instant, c'est les Jordaniens. Mais donc, c'est la même chose. Donc là, en fait, c'est tout ce complexe qui s'appelle Amidbar. Maintenant, n'oubliez pas une chose. Ce verset, à qui il est donné? Ce verset-là de « Vayasev Elohim et Aham derech Midbar Yamsouf » il est donné par Moshe, oui, mais à qui? Au Bnei Israël, oui, mais lesquels?
Il
s'adresse au Bnei Israël, c'est un verset de la Torah. C'est-à-dire que la Torah a été donnée au Bnei Israël à la 40e année du désert. C'est-à-dire qu'on est à la fin de toutes les péripéties, Dieu a fait une dictée à Moshe et il écrit tous les événements et donc il va les donner au Bnei Israël. Donc ça veut dire qu'on parle à des Juifs qui ont 40 ans de désert derrière eux, ils savent très bien ce que ça veut dire pour eux le désert. Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Pas pour les Juifs qui sortent d'Égypte, mais pour le lecteur qui reçoit le verset. Bon, on sait très bien que bah, Midbar, c'est quoi l'événement essentiel du Midbar? Matan Torah. Donc ça veut dire que nous avons une troisième section du peuple qui est prêt à venir à une condition. Zalpi Toire. Si c'est religieux, je viens. Si c'est pas religieux, je préfère rester à Paris.
Mais il a, quand il leur a dit qu'il les ferait sortir d'Égypte, c'était pour aller en Israël.
Tout à fait.
La première raison.
Tout à fait.
Donc il n'aura jamais parlé de la Torah.
Bien sûr. Mais là, le verset, c'est-à-dire que le verset qui nous raconte l'histoire.
Parce qu'il l'a écrit après.
Ben voilà. Depuis, ils ont reçu la Torah dans le désert.
Oui, oui.
C'est pour ça que je dis ça.
D'accord.
Maintenant, donc ça veut dire que cette troisième section, elle dit, moi, je viens à une condition. C'est que ce soit religieux. Ah, l'État d'Israël est dirigé par des gens pas religieux. Vaut mieux rester à Williamsburg. Eh, c'est quand même vachement mieux.
Non, mais je ne comprends pas.
Quoi?
Parce qu'il l'a écrit après.
Oui.
Mais là, il parle du peuple qui est en train de sortir d'Égypte.
Tout à fait. Donc tu dis, les Juifs qui sortent d'Égypte, ils ne savent pas qu'ils vont recevoir
voilà,
la Torah.
Nachon.
Mais il n'y a pas de problème, parce qu'il y a quand même des gens qui ne sont prêts qu'à partir à l'époque de Moshe, que si c'est spirituel.
D'accord.
Ils n'appellent pas encore ça la Torah, ils ne savent pas ce que ça veut dire Torah. Mais moi, le lecteur qui a reçu le verset, je sais ce que ça veut dire. C'est vrai? Et donc c'est très facile de faire une corrélation avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est bien connu qu'on pouvait mieux faire Shabbos à Alexandrie. Il n'y avait pas Alexandrie à l'époque, mais... qu'on pouvait faire mieux Shabbat, Kashrout, tout ça, à Thèbes.
Pourquoi?
Comment ça, pourquoi?
Pourquoi on peut mieux le faire là-bas?
Bah, je ne sais pas, c'est ce que nous disent aujourd'hui plein de gens. Qu'on peut mieux être religieux à Paris, qu'on peut mieux être religieux à Brooklyn, qu'on peut mieux être religieux, bah, tu vas venir à Tel Aviv, Chas
v'Shulem. Non, mais il n'y a pas que Tel Aviv aussi.
Quoi?
Non, mais je veux dire, je comprends pas.
Tu dis que les gens qui disent ça sont des hypocrites. C'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi. Je me serais pas permis.
On est deux alors.
Quoi? Tu sais pas qu'il y a des gens qui préfèrent rester en France ou ailleurs et qui te disent sans honte, mais de manière absolument chutzpaniote, que le judaïsme, il est plus gardé si tu laisses tes enfants à Paris que si tu les fais monter en Israël?
Vraiment se préparer.
Oui, ça c'est une autre façon de dire vaut mieux rester à Paris.
Si c'est-à-dire... tu fais une faute en Israël,
il faut pas dire qu'il préfère. Nahon, ça c'est une autre façon, c'est une façon plus politiquement correcte de dire reste à Paris. C'est chutzpa beota mida, seulement c'est chutzpa qui met un costume.
C'est la même chose.
Mais c'est exactement la même chose.
J'ai quelqu'un de ma famille qui a fait son angia il y a 2 ans. Là, elle va son roche qui va recevoir l'embracha pour faire son angia.
C'est ça, les fromes, ils restent ici. C'est Nora ve'ayom. C'est Rishout déguisé avec une kippa et une barbe.
Rishout,
et un chapeau. C'est... Rishout, c'est de Racha, Milachon Racha. J'ai pas parlé de ça. J'ai pas du tout parlé de ça. Moi, je parle de gens qui disent vaut mieux rester à Paris parce qu'on peut mieux y faire la Torah. Comme il y a quelques années, est arrivé à Paris, a été reçu Bekavod Melachim, le rabbi de Sotmar, quand il est arrivé à Paris, et il a dit Il est venu à Paris donner des millions de dollars et avec pour seul objectif que les gens restent à Paris. Chas v'shalom qui monte en Israël. Chas v'shalom parce que en Israël, on se déjudaïse. Ça a l'air, c'est, non seulement c'est grave, non seulement c'est du Lashon Hara, Motsi Shemra, c'est Rishout déguisé avec une barbe et un chapeau. Je me permets de le dire. Et j'ai aucun problème de dire très clairement que le rabbi de Sotmar a beaucoup plus de connaissances toraniques que moi. Ça a l'air, je ne suis pas en train de dire que je suis à son niveau. Ce n'est pas du tout le débat. Il peut être beaucoup plus grand que moi en Torah, mais n'avoir rien compris à la Torah.
Donc il n'est pas plus grand.
Ça, c'est toi qui l'as dit aussi.
Oui,
non, c'est sûr qu'il a plus de connaissances toraniques. C'est-à-dire qu'il peut certainement beaucoup mieux que moi te citer des gemarot par-ci par-ci par-là, des connaissances de halakha par-ci par-ci par-là. C'est évident. C'est pas le débat.
Oui, mais ça. En fait,
mais
il rate un épisode.
Mais voilà, il rate un épisode et c'est malheureux et c'est grave et c'est faut pas laisser faire ça. Ça a l'air en malasot. Et c'est surtout le vrai problème, c'est que ce sont des gens qui sont complètement, mais alors complètement, détachés, déconnectés de la réalité des Juifs de Khoutlaret. Parce que oui, effectivement, quand tu vas être le rabbi de Sotmar et que tu vas arriver à Rue Pavée et que tu vas faire un grand discours devant les rabounim de Rue Pavée, du 19e et tout ça, machin, pas de problème. Mais, mon ami, en France, la situation des Juifs de France ne se limite pas aux 80 000 personnes qui sont rattachées au noyau dur de la communauté juive. Et non, plus de la moitié des Juifs de France, c'est-à-dire plus de 200 000 Juifs, ce sont des estimations, on n'a pas de chiffres précis, mais plus de la moitié des Juifs de France ne sont même pas inscrits à une communauté pour s'y faire enterrer quand ils vont mourir.
Et même ceux qui sont inscrits, ça ne les empêche pas de ne pas pouvoir rentrer le Shabbat chez eux parce que la porte elle est fermée, parce que la lumière... Elle s'allume automatiquement dans le couloir.
Même tu dis, ils rentrent quand même.
Il y en a qui rentrent quand même.
Il y en a beaucoup qui rentrent quand même. Et je vais te dire, même pour ceux qui sont des Frum, des Yiddishkeit et Men, il y a le dernier livre du Rav Bochko qui est sorti qui leur permet de rentrer quand même.
C'est ça, mais pas de...
Mais t'inquiète pas, ces Juifs-là, ils n'écoutent pas le Rav Bochko. T'en fais pas, n'aie pas peur.
On va faire mal jour aussi, que ça.
Après, il y a une question.
Le problème, c'est que la grande période des Juifs de France, c'est les mariages mixtes.
Mais bien sûr. Bon, mais Kitso, vous avez compris à quel point c'est pas bien de dire ça. Mais on voit que ça a le dos long. Quoi.
C'est
incroyable
que l'histoire se répète.
Malasot.
Et comment on peut faire l'unité entre tout ça?
Ah, bah montrer la vérité.
Oui. Voilà. Et eux, ils disent qu'ils détiennent la vérité.
Eh bah, c'est pour ça qu'on étudie la Torah. Et on leur montre dans les psukim qu'ils ont tort.
Ils reconnaissent quand ils étudient.
Quand ils sont de bonne foi, ils reconnaissent.
Non, mais attends, ton interprétation de ce passage, que c'est les gens qui voulaient la Torah, etc.
Ah, tu dis. C'est pas dans les psukim. Tu dis, c'est pas exactement dans les versets. Parce que dis-moi, chasser psukim qui disent qu'il faut venir ici?
Non, mais.
Il y a fait.
En l'occurrence.
Absurde. Alors, si vraiment je rentrerais dans un débat avec telle ou telle personne, eh bien, je saurais trouver d'autres jokers au-delà de ce simple passage.
Ouais, mais ils ont toujours une réponse.
Oui.
Non, aussi... c'est faux. C'est faux.
Oui,
non, c'est faux.
Si le monde de la Torah partait d'Israël, alors on partirait.
Non, mais c'est faux. Ils n'ont pas toujours réponse. C'est faux. Et je me permets de le dire cette fois, pour que ce soit bien clair. À chaque fois qu'il y a des débats, ça n'existe pratiquement jamais, mais vrai, entre des rabbins comme ci et des rabbins comme ça, ils n'ont pas le dernier mot, les rabbins comme ci, pour la simple raison qu'ils n'ont pas étudié la sougia d'Eretz Israël. C'est une réalité. Et je vais te donner uniquement mon exemple personnel, que j'ai grandi avec quelqu'un très proche, très ami, machin. Bon, lui était, venait d'une famille très religieuse, machin. Moi, je n'étais pas du tout religieux, mais on était très amis dans notre jeunesse. Et quand je suis venu en Israël et que j'ai fait tchouva, il avait de grands espoirs pour moi pour qu'un jour, je quitte enfin le Machon Meir et ce genre d'endroit-là, la première année où j'étais en Israël, pour enfin voir la lumière et que j'aille le retrouver à la Yeshivat Meir. Mais bah, évidemment, mais au début il n'avait pas de problème que je sois Machon Meir parce qu'il savait que le Machon Meir c'était pour les gens qui ne savent pas lire l'hébreu, tu vois. Donc il s'est dit, bon, les premiers mois, machin, mais après tu vas pouvoir venir vraiment chez les vrais juifs. Et bon, ça n'a pas marché, j'ai pas été chez les vrais juifs, comme il dit, mais beaucoup plus tard, on a commencé à dialoguer et j'avais un petit peu plus étudié et je pouvais lui répondre et parler. Et donc pendant près de, je sais pas, 4 mois, 5 mois, on a eu une correspondance. Lui, il était évidemment plus en Israël depuis, hein. Il était parti vivre à Londres, Ira Kodesh, bien sûr. Et on a eu une quatre voûtes par rapport au Hallel de Yom HaAtzmaout et à Yom HaAtzmaout de manière générale. Machin. Pendant 4 mois, un ping-pong de lettres par Internet et des vrais trucs, hein, Mekorot et tout ça, machin. Et à un moment donné, il m'a dit « Tov, en liodma la note. J'ai plus d'arguments à te donner, mais j'ai demandé à mon rabbi m'a dit que je devais arrêter de parler avec toi parce que tu étais un apikoyos. »
Oh là.
Mais je lui ai dit « Ah bon ?» Il dit « Oui, il m'a dit, c'est pas toi, mais c'est quand on étudie chez les rabbins sionistes, c'est de l'apikorsout. Wow. » Je lui ai dit « Tu vois comment tu as complètement dévié et que tu es devenu chrétien ?» C'est fantastique, hein. C'est-à-dire qu'on a parlé Torah, on a parlé rabbanim, on est d'accord, pas d'accord, j'amène un autre argument, machin. T'as plus d'argument, alors tu dis que je suis illégitime. Mais c'est où on va? C'est pas vrai qu'ils ont toujours quoi répondre. C'est faux. Zemayesh.
Et avec ça, on doit faire l'union entre nous tous.
On ne doit pas faire l'union, on ne doit pas imposer l'union. On doit montrer l'argument. Et Bezrat Hashem, les gens seront honnêtes et intelligents. Ah grave, ça marche, hein. Il y a de plus en plus de rabbanim. Je parle, là on va parler du monde francophone qu'on connaît bien. Il y a de plus en plus de rabbanim francophones qui sont de tendance rabbinite, mais ces dernières années, tu les vois, ils ont un discours presque sioniste. Non, je parle même de ceux qui sont là. Je parle de ceux qui sont là, mais qui avaient toujours... Alors, ils sont là, mais ils avaient pendant très longtemps un discours quand même très... très séparés, tu vois que de plus en plus, on ne va pas donner de nom, mais il y en a plein qui ont des discours de plus en plus ressemblant au discours des rabbins qui potent sous gote. Bon, il ne faut pas exagérer non plus, hein, ils ne sont pas encore... mais quand même, donc ça passe, c'est se rattacher. C'est...
Il faut aller convaincu quand on leur parle. Quoi.
Ah ben, tu parles de ce que tu connais, si tu ne connais pas, tu ne parles pas, c'est pas chouette. C'est... Et il y a donc une quatrième section dans notre peuple juif. Qui est cette quatrième section? Je sais... Mon ami Chabtaï, que tu l'as attendu, ce verset depuis longtemps, il est là, je me suis préparé comme un fou pour ce soir, il y a marqué « Ve chamushim alu bene Israël me'eretz mitzrayim ». Avant qu'on se dispute, regarde ce qui a marqué d'abord dans Rashi. Rashi dit quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est chamushim pour lui? Donc vous avez le Rashi, ceux qui ont Rashi. « En chamushim » Elle a mezuyanim, ce qui veut dire, littéralement, la seule traduction du mot chamushim, ça veut dire armée. Armée, avec des armes. Ok ? Hein ?
Tachmoshet,
ça vient de là. Ok ?
Le cinquième du peuple a une arme.
J'ai pas encore parlé du cinquième du peuple. J'ai dit, nous dit Rashi, chamushim, ça veut dire armée.
Et d'où ils avaient ces armes ?
Bon, ils les ont fait. Ils les ont fait. Pas très compliqué de faire une arme.
Mais pourquoi il les a armés? Il a évité de passer là où il y a des guerres.
Attends, deux secondes. Rashi continue et dit Davar Acher, autre explication, Echad Michamesh, un cinquième du peuple. Deux secondes. Ça, c'est ce que nous dit Rashi. J'en profite avant de rentrer dans la marloquette de vous expliquer un des principes fondamentaux de Rashi. À chaque fois, dans tout son commentaire, lorsque Rashi dit « davar acher », ça lui arrive souvent de dire une explication, ensuite il dit « davar acher » et dire un autre truc. C'est pas que Rashi, il sait pas faire la différence entre les deux. « Davar acher » dans Rashi, c'est toujours « davar acher mais auto davar ». C'est-à-dire une autre facette de la pièce. C'est jamais contradictoire, c'est toujours complémentaire.
Double sens.
C'est un double sens. C'est-à-dire que pas l'un annule l'autre, mais il faut comprendre que c'est les deux. D'accord. Donc là, si on veut comprendre Rashi, ça veut dire qu'il nous dit qu'un cinquième du peuple était armé. D'accord ? Maintenant, deux secondes. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont partis armés ? Mais parce que ce n'est pas les mêmes juifs du tout que ceux qui ont peur. Il y a des juifs qui ont dit, mais bien sûr qu'on sort, nous on est prêts, allez on a des tanks, on a des F-16, on y va, on va les éclater, on a Tsahal derrière nous. Il y en a des comme ça, qui sont prêts à venir en Israël, Dafka pour faire l'armée. Combien on a vu de gens qui sont venus parce qu'il y avait une guerre en Israël? Ils ont dit je participe. Et après ils sont restés. Pendant la guerre des 6 jours, il y a eu un afflux énorme. Bon, le problème c'est que elle a duré que 6 jours. Le temps qu'ils arrivent et qu'ils se préparent, c'était fini. C'est malheureux, mais ils auraient bien voulu, mais voilà.
Les 6 jours les ont amenés.
Oui, oui, non, c'est très bien. Je veux dire, ils étaient chauds pour se battre. Le temps qu'ils arrivent, machin, bon. Maintenant, il est temps d'arriver à notre histoire. Parce que le Hamushim, Alou Bene Israël, eh bien, de là, on va suivre l'enseignement de nos sages qui dit que c'est 1/5 du peuple seulement qui est sorti d'Égypte. Alors, je sais que, toi tu dis, Hamushim, ça veut dire armée.
Armée, équipée.
Et oui, équipée, militairement, quoi. Prêt à se battre. Et ça ne veut pas dire Echad Michamesh. Mais Bimchila, et je t'adore, c'est pour ça que je te le dis avec toute ma bonne foi, c'est un problème d'Ulpan. Pas que tu ne comprends pas ce que veut dire le mot Hamushim, que on a trop tendance en français, et quand on traduit la Torah, de faire fi complètement des racines grammaticales. C'est-à-dire que les mots en hébreu, qui ont la même racine, sont reliés. Ils ne veulent pas forcément dire la même chose, mais ils sont reliés dans leur essence. Pourquoi est-ce que le mot « armé », « équipé » comme tu dis, on a dit ça en hébreu avec un mot qui ne peut pas nous faire penser au mot « chamesh ». C'est-à-dire que « chamouche » nous fait évidemment penser au mot « chamesh ». Ça, c'est malin.
Il y a d'autres mots aussi comme ça.
Bien sûr, non mais bien sûr, c'est pas le seul. Là, je parle de celui-là, mais je veux dire, bien sûr, il y a, quand tu prends le mot « erev », ça veut dire quoi, « erev » ? Le soir. Mais c'est totalement relié au mot
«
Me'arev, Irbouv, Arov » comme on a dit dans Makate Arov, « Lama ». Mais parce que « Mase Irbouv, Me'arev » c'est mélangé, le soir, tout est mélangé puisqu'il fait nuit. Donc tu n'arrives pas à distinguer les choses.
Et donc tu penses que les mots qui ont
la même racine, ont forcément un lien. Le lien n'est pas toujours évident. Mais ils ont un lien.
Il y en a beaucoup.
Mais oui, je suis d'accord avec toi. Bon. Il faut chercher le lien.
Quel est le lien? Ah, il faut chercher.
Ben oui, j'ai dit, il n'est pas toujours évident. Mais il faut chercher le lien.
Mais peut-être que parfois, on va chercher à petite bête.
Alors, peut-être. Là, tu vas voir qu'en l'occurrence, elle n'est pas du tout petite, la bête. Parce que d'où est venu, au niveau étymologique, hein, je ne parle pas au niveau Torah, d'où est venu le mot « chamouche » qui veut dire équipé militairement.
La main.
La main ?
Le sang-doigt.
Non, pas du tout. Elle est venue du Chomesh. Mazé Chomesh.
Chomesh, c'est...
À Chomesh,
c'est
le cinquième. Oui, sauf que c'est aussi un vêtement.
Ça veut dire aussi l'abdomen.
Ça veut dire aussi l'abdomen. Et plus exactement... Le chomesh, c'est le tablier qu'on met ici. Chomesh apekudim. On va voir dans le livre de Vayikra. C'est un autre nom pour le choshen amishpat du Kohen Gadol qui se tient ici sur le cœur. Lama. Eh bien, tout simplement parce que quelle est dans le corps humain la côte la plus forte, la plus dure du cœur, j'allais dire, voilà, du corps humain. C'est la cinquième. Parce que c'est celle qui protège le cœur. Zahomesh. C'est l'endroit le plus fort pour te protéger. C'est comme ça que Dieu il a créé le corps humain. Résultat des courses. Puisque Ahomesh, c'était ceux qui protégeaient de manière naturelle, eh bien, par extrapolation, tout ce qui est devenu un moyen, un outil de protection, militairement parlant après, c'est appelé Hamush. Donc, oui, là, c'est clair que le lien entre Hamush armée est lié avec Hamesh 5. Et donc, c'est ce qui va amener, Rashi, mais pas seulement, de dire que bien sûr que Hamush, ça veut dire armée, là, évidemment, c'est le sens premier du terme. Mais qu'est-ce que ça veut dire également un cinquième? Soit tu dis c'est que un cinquième du peuple est sorti, soit tu dis que un cinquième de ceux qui sont sortis étaient armés. Ok?
Et alors c'est quoi?
Bah tu fais ce que tu veux. Soit tu suis Rashi, c'est-à-dire que un cinquième de ceux qui sont sortis étaient armés, soit tu suis Ibn Ezra, tu dis qu'ils étaient un cinquième. Bon, l'homme jamais. La nafkamina, juste deux secondes, la nafkamina, elle n'est pas très importante. Elle est juste de savoir combien sont restés en Égypte.
C'est très important. Si c'est les 80%.
Qu'est-ce que ça change? Non, ce n'est pas très important en vrai. C'est important quand tu veux faire du show. C'est-à-dire quand tu veux montrer à quel point l'exil, elle est attirante, la preuve, 80% des Juifs sont restés. J'entends, mais en fait, il n'y a pas d'importance plus que cela parce qu'ils ont de toute façon disparu. Qu'ils aient été 20% en Égypte ou 80% en Égypte, ils ont disparu. L'histoire juive ne les compte plus.
Mais.
Oui.
Ça pose un problème quelque part.
Dis-moi.
En ce sens que. Il est question quand même d'un événement. Comment sans précédent.
Parce que là, ok.
On a vu depuis le début comment Hachem parlait de lui-même, de sa toute-puissance, de son bras. De sa main forte.
J'accepte.
Pour faire sortir une nation du sein d'une autre nation.
Jusque-là, 100%.
Et j'ai même. Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est que en parlant de cinquième machin, etc., on réduit, on diminue la toute-puissance d'Hachem qui a promis Abraham.
Ah.
Qui va sortir son.
J'entends ce que tu dis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. On a l'impression, on a BMET l'impression que ça diminue. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On pourrait avoir cette impression-là, bien sûr, parce que quoi? Dieu, il te montre sa toute-puissance et toi, tu préfères rester en Égypte? Eh bien, moi, je te pose la question. Comment est-ce possible qu'alors que Dieu t'a montré sa toute-puissance dans tous les événements de l'histoire du peuple juif, il y a encore la majorité des Juifs qui n'aient pas encore décidé de prendre leur billet d'avion pour venir à la maison.
Ça.
Ah, me dis pas qu'on ne voit pas la toute-puissance de Dieu là maintenant.
Non, non, c'est pas ça. Non.
On la voit.
Elle n'est pas. Actuellement, ce n'est pas le cas.
Quoi?
Il a promis qu'à la fin, il va ramener.
T'as pas vu encore la toute-puissance de Dieu?
Mais si.
Ah, ben voilà.
Mais je veux dire, tous les Juifs ne sont encore pas remis. D'accord. Il l'a promis.
D'accord.
Il va le faire à la fin.
Mais, d'accord, mais moi je ne parle pas de ce que Dieu il va faire.
On va vivre un événement extraordinaire. Bien. Comme ils ont vécu ce qu'on est en train de vivre.
Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi.
Pourquoi?
Parce que l'événement extraordinaire qu'eux ont vécu, on l'a vécu aussi. On l'a déjà vécu. C'est-à-dire que les miracles extraordinaires que Dieu a fait pour sauver son peuple de l'exil, entendant mes paroles, la guerre d'indépendance, la guerre des six jours, la résurrection du peuple juif, la création d'un État, tout ça, ce sont des miracles extraordinaires qui n'ont pas à faire pâlir et qui ne pâlissent pas devant les miracles de la sortie d'Égypte. Et pourtant, il y a encore des Juifs qui n'ont pas compris et vu la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu dis, de toute façon, au final, Akadosh Baruch Hu, il a promis de terminer le boulot, quoi qu'il arrive. Je suis d'accord avec toi, mais il terminera le boulot pour qui? Pour ceux qui sont encore
actuellement
dans le jeu.
Actuellement. Supposons que Akadosh Baruch Hu décide de sortir tous les Juifs qui sont en France.
Oui.
Il envoie quelqu'un.
Oui.
Pour faire comme Moshe.
Comme Moshe. Bah tu verras qu'il y en a plein qui ne vont pas sortir. Je crois que tu ne connais pas bien les gens appelés les Juifs.
Ils se sentiront plus français que Juifs resteront.
Mais enfin.
Bon, il ne faut pas qu'on leur prête quand même un entêtement plus que.
Tu dis pas plus que ce que l'histoire elle a montré.
Parce que.
Excuse-moi.
C'est facile aujourd'hui de rester.
Attends, excuse-moi. Haggai est un prophète comme Moshe. Il a été envoyé au nom de Dieu. Et il dit à tout le monde de repartir. Que ça y est, Dieu, il a dit, rentrez. Vous avez un descendant direct du roi David.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Ils n'ont pas
écouté. Ils n'ont pas écouté.
Lui, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a dit, venez.
C'est tout?
Bon, plus ou moins.
Il y a une différence avec Moshe.
Ah, tu dis, il n'a pas fait des miracles? Ah, toi, il te faut les miracles.
Non, c'est pas moi, c'est le peuple. Le peuple a
moi, je suis désolé de te contredire.
Ils ont vu quelque chose.
Toute l'histoire des miracles montre que les miracles, ça ne marche pas. Bien, c'est pas que ici que ça marche pas. Là, tous les miracles, dans tout le Tanakh, dès qu'on fait un miracle.
Là, je regrette, mais là, ça a marché.
Ça a marché pour une partie.
En Égypte,
ils sont. Ben non, ils sont pas tous partis.
Ça, c'est,
Non, non, c'est sûr qu'ils ne sont pas tous partis.
C'est
sûr, même si je ne rentre pas dans 4-5e, c'est sûr qu'ils ne sont pas tous partis.
Il n'y a aucun élément qui soutient ça.
Ben si, celui-là.
Qu'ils ne sont pas tous partis.
Là, il est, je viens de tomber.
Ça, c'est aller chercher la tube. Si je te dis Bara, Bara, c'est quoi?
Mis à l'extérieur.
Bara?
Oui.
C'est écrit de l'extérieur.
Oui, c'est le mot traduit par créer.
Oui.
Il a un autre sens.
Oui.
Qui signifie manger. Alors, quel est le rapport?
Pourquoi ça signifie manger?
J'ai pensé que peut-être Rachid donnerait une explication.
Pourquoi ça signifie manger?
Ça signifie manger, Bara.
Faut que tu m'aides.
David, quand, comment, quand l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba,
ouais,
devait
mourir,
mourir.
Ouais.
Il a jeûné.
Tout à fait.
Et ensuite, quand l'enfant est mort,
il a mangé. Non.
C'est le mot bara.
Oui, mais ça, c'est dans le sens bari.
Bari, c'est-à-dire.
C'est-à-dire qu'il a retrouvé la santé. Quand il a mangé, il a retrouvé la santé.
Pour retrouver la santé, il faut manger d'abord.
Je suis bien d'accord avec toi. Mais là, c'est parce qu'il a jeûné pendant 7 jours, donc il était très très mal en point. Et donc, il est redevenu en santé. Pour ça, il a fallu qu'il mange, bien sûr. Mais ce n'est pas que le mot « bara », il veut dire « manger ».
Il veut dire « manger
ah, ». Encore... C'est toi qui cherches la petite bête, là, maintenant.
Non.
Je t'en prie.
Mais
je t'en prie. Ce n'est pas parce qu'il y a une allusion à cela qui te permet d'y arriver.
Ce
n'est pas que c'est ça que ça veut dire.
Ce n'est pas une allusion. Il est même écrit de deux manières.
Dis-moi.
« Bara, Aleph à la fin » et « Bara, He à la fin ».
Oui, moi, je parle de « Aleph ».
Choisis celui que tu veux.
Je ne choisis pas, tu m'as dit Bara, de la Torah, du premier passage de la Torah, c'est avec Aleph.
Alors, dans certaines, comment, dans le Tanakh,
oui,
parfois c'est écrit avec un Aleph.
Mais parfois avec un Aleph, c'est pas la même chose.
Là, oui, mais là c'est écrit avec un Aleph.
Mais d'accord, mais donc Aleph, c'est pas, ça ne veut pas dire forcément la même chose que quand ça veut dire avec un Aleph. Les lettres ont une importance, une signification. Maintenant, l'homme est chané. Toi, tu es en train de me dire, il y a plein de juifs qui... Toi, tu dis, tout le monde est sorti, parce que franchement, ils ont vu la main de Dieu. Comment est-ce possible qu'ils ne seraient pas sortis?
C'était l'objectif d'Akadosh.
Oui, d'accord, c'était l'objectif. Ça n'a pas marché. Et j'en veux pour preuve que le miracle n'est pas du tout un Théoudat Bitoir, un acquis que forcément tout le monde va écouter. J'en veux pour preuve tout le Tanakh, où il y a plus d'un miracle qui se passe, et c'est pas parce que le Navi fait un miracle que tout le monde forcément va écouter derrière.
Là, ils ont eu quand même une succession de miracles, d'événements. Tu peux pas rester insensible devant ça. Ouais. Jusqu'à la mort des premiers-nés.
Moi, je pense qu'il y a plein de juifs qui sont quand même très, très, très têtus.
Jusqu'aux animaux, les premiers-nés.
Tu as un regard extrêmement positif sur le peuple juif. Et heureusement que tu es là, tu es l'avocat du Ham Israël. Moi, je suis un petit peu plus sceptique, compte tenu de notre histoire. Mais j'aimerais bien que c'est toi qui aies raison.
Non, je parle pour le début,
c'est-à-dire... Oui, mais toi, tu dis, attends, c'est pas possible. Tu dis, c'est pas possible. Eh bien, moi, j'aimerais bien que tu aies raison.
Non, je pense qu'il a raison.
Je pense que tu n'as pas raison, mais j'aimerais bien que tu aies raison.
Si, si, il a raison. Parce que ça n'était pas tout le temps que le sens. Comment tu comprends?
Les morts dû à la destruction des deux temps par voisine des millions. Rien à voir. Il s'est passé 500 ans entre les deux, il peut se passer plein de choses. Ah, tu peux pas me comparer des époques qui sont espacées de 500 ou 2000 ans. C'est deux choses différentes. Bekitso, j'espère que tu as raison. Je pense pas que tu as raison, mais j'espère que tu as raison. Ça a l'air. Lisgor et Tzé. En tout cas, on a ici quatre groupes très différents. Vaïkar Moshe. Et Atzmot Yosef Imo. Ah, lama. Qui Ashbea Ishbia et Bene Israël, les morts, pas qu'on Yvkon, Elohim et Rem, Validem et Atzmota Imizeit Rem. Moshe, comment il est au courant que Yosef, il a dit, ramenez-moi avec vous, machin.
C'est vrai, Yosef l'a dit à ses frères.
Il a fait. C'est-à-dire que Moshe n'est pas tellement extérieur au peuple juif autant qu'on aurait pu le penser. Il connaît très bien les Massorot, les traditions du peuple d'Israël. Et donc, effectivement, on ne peut pas partir d'Égypte sans prendre Yosef avec nous. Parce qu'on ne peut pas laisser Yosef sans lui donner la possibilité de devenir Mashiach ben Yosef.
C'est quand même...
Oui.
Les frères de Yosef.
Oui.
Ils sont morts là-bas.
En Égypte, oui. Est-ce qu'ils ont été ramenés aussi?
Rien ne le dit.
Non, rien ne le dit. J'imagine. J'ai envie d'imaginer aussi. Ça a l'air. Rien ne le dit, mais... Du moins, ils n'ont pas demandé, on n'a pas marqué dans la Torah leur demande. Mais je pense qu'il y a de fortes... On va dire, il y a de fortes raisons de penser qu'ils ont quand même demandé. Papa, il a demandé, Yosef, il a demandé, et je pense qu'ils ont demandé. Alors, c'est pas marqué. Pourquoi c'est pas marqué? Parce que ça ne nous apprend rien de le savoir.
Ça nous touche quand même.
Pardon?
Pourquoi Yosef,
ça nous apprend quelque chose? Parce que Yosef, toute sa vie, il a montré que son idéal était de faire fructifier l'exil. Yosef, en tant que Yosef, c'est le patron de l'Égypte. C'est lui qui va faire venir Am Israël en exil. Dis-moi, en tant que patron de l'Égypte, il n'aurait pas pu faire un pont aérien pendant la famine pour que tous les mois, il y ait une caravane de denrées qui arrive chez Yaakov? Il n'aurait pas pu subvenir aux besoins de sa famille en les laissant là-bas? Il aurait pu. Mais il les a fait tous venir ici. Donc il montre que dans sa façon de gérer lorsqu'il est vice-roi d'Égypte, eh bien, Yosef pense qu'il faut idéaliser l'exil. À la fin de sa vie, il comprend que non.
Que l'exil n'est pas une finalité.
Voilà, à la fin de sa vie, il comprend que non, et donc il demande à ses frères de le ramener. Regarde, entre parenthèses, il ne pouvait pas partir avant la sortie d'Égypte. C'est pourquoi il n'a pas demandé à ses frères, comme papa, dès que je meurs, vous me ramenez en Israël. Parce qu'il ne peut pas, il est l'esclave de Pharaon. Donc ça ne sera que lorsque les Bnei Israël partiront d'Égypte qu'il peut partir avec. Ok? Oui?
Non, par contre, ça nous rappelle justement le code que Moshe l'a dit au Skenim.
Aaron? Oui.
Donc il était au courant de la...
Déjà
avant qu'on vienne à ce Pakod Yifkod.
C'est-à-dire que le Pakod Yifkod montre qu'il connaissait le secret de Pakod Yifkod. Ok?
Et là, ce n'était pas la peine de demander à Pharaon la permission.
Là, ça y est, on part.
De prendre
Yosef? Non, parce que Vayakom, Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef. C'est-à-dire qu'il ne se rattache plus à ce qui s'est passé dans la dynastie d'avant. Ok? Vayisum Misukot.
Donc, ça lui importe peu qu'il les prenne, il ne les prenne pas.
Oui, ça n'a pas dû être un grand tralouïde. Bon, alors, le Midrash, il dit qu'il fallait les retrouver, les Hatzmot Yosef. Parce qu'on les avait mis dans le Nil. Les pharaons avaient mis Yosef dans le Nil, parce qu'il était celui qui a apporté la bracha, et pour l'Égypte, la bracha, c'était dans le Nil, et donc il fallait absolument le trouver. Donc, il avait écrit une caméra, un talisman, et dans lequel il y avait marqué « monte taureau », parce que Yosef est comparé au taureau dans les brachot de Yaakov, il l'a lancé dans le Nil, et à ce moment-là, le cercueil, le sarcophage de Yosef est remonté tout seul. À ce moment-là, il y a un homme qui passait par là, qui a pris le fameux talisman et qui s'en servira plus tard pour le balancer dans le chaudron avec tout l'or fondu et sortira le veau d'or. Mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons bien plus tard. Les amis, Vaïssou, Misukot.
Si j'avais été les Égyptiens, ouais. Regardez les os de Yosef. Comme ça, tous les ans à Rosh Hashanah, il y aurait plein de gens qui viendraient.
C'est ça. Ça, ils n'avaient pas l'ambiance du business, les Égyptiens. Les Ukrainiens, ils l'ont beaucoup plus.
C'est pas que les Ukrainiens. Il y a beaucoup de Juifs qui se font
du dehors. Oui, non, mais tu as raison. Mais je veux dire, il y a différents pays qui ont très bien compris le filon des Kivrei Tzadikim. C'est-à-dire, c'est un filon.
C'est pour ça qu'ils ont. Oui.
Bekitsour, Vaïsou, Misukot, Vayachanou, Be'etam. בקצה המדבר. והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה. Ils sont guidés par une nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Alors c'est quoi le but de la nuée et de la journée? לנחותם הדרך. Non, là on ne parle pas des nuées autour, on parle de la colonne qui avance. Et son rôle à cette colonne de nuées, c'est de montrer le chemin. Quel est le rôle de la colonne de feu?
Éclairer.
Vous allez me dire, c'est normal, c'est la nuit. Nahon, mais ça veut montrer quoi? Ça veut dire que la nuit n'est pas un moment où la présence divine n'est pas là. Car en Égypte, la nuit, c'est le règne d'un autre dieu. Il y a le dieu Ra, Amon Ra, qui règne le jour, c'est le disque solaire. Et la nuit, il y a Apophis, le dieu serpent. Et donc, il y avait quelque chose de très, très ancré chez les Juifs, chez les Bnei Israël, pas les Juifs, chez les Bnei Israël de l'époque, c'est que la nuit, ce n'est pas le Dieu, c'est son alter ego. Il fallait donc leur montrer que la nuit, dans le Ham Israël, elle est tout aussi éclairante que le jour. Il n'y a pas deux divinités. Bien sûr qu'ils devaient le savoir, mais il y a une différence entre le savoir et avoir vécu 210 ans de lavage de cerveau continué. C'est-à-dire ?
Et mon intérêt
rabalé. Et mon intérêt rabalé, l'autre, exactement.
Là, au début, si je... avant que je me sois trompée,
dis-moi.
On dit que Pharaon, il est avec eux ?
Non, il les envoie. C'est-à-dire qu'il a des mecs à lui qui
vont avec
lui.
D'accord, donc il marche jour et nuit avec eux.
Ouais. Oh, c'est peut-être des... Il a peut-être mis des postes, je ne sais pas comment il a fait exactement.
Peut-être jusqu'à une certaine distance.
Quoi. On va voir, voilà, oui, jusqu'à une certaine distance, on va voir où exactement. Ok ?
Et là, c'est nuit et jour.
Lo mudanan yomam va mudesh laila lifne am. Vaidaber Hashem el Moshe lemo. Daber el bene Israël. Veyashuvu veyachanu lifne pi achirot ben migdol ou ben yam lifne baal tsefon nichocho tachanu al yam. C'est-à-dire quoi ? Il lui a dit, dis au Bnei Israël, arrêtez-vous et la pétach chez la chérout. Arrêtez-vous devant l'entrée de la liberté. Pi achirot. La bouche de la libération. Et c'est où ça ? C'est devant la mer. Juste en face de Baal Tsephon, un des dieux de l'Égypte. Lama, parce que au Midrash, il dit que toutes les autres divinités avaient été détruites pendant les Makot, mais celui-là, il est resté. Et donc, pour les Égyptiens, c'était la preuve que finalement, le Dieu d'Israël n'est pas meilleur que les leurs. On va faire la dernière carte lors de l'ouverture de la mer Rouge. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses face à ton ennemi. Jusqu'à présent, les Bnei Israël n'ont pas eu à faire face aux Égyptiens. Là, il va falloir faire face.
Et là, il leur dit de retourner.
Non, vayashuvu vayachanu. Vayashuvu vayachanu. Retournez, mais pas en Égypte, devant la mer et on se pose.
Pourquoi ils n'ont pas fait arrêter ?
Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent se retourner pour faire face. Quand tu avances, tu dépasses et je ne regarde pas. Retourne-toi, il faut faire face. Il faut voir les Égyptiens arriver. Ok ? Et effectivement, va'amar paro livene Israël, nevochim hem ba'aret sagar alehem amidbar. Les envoyés de Pharaon viennent lui dire « Eh, ils tournent en rond, hein, les Bnei Israël. Ils sont perdus, là. Ils font n'importe quoi. » Et à ce moment-là,
ils sont égarés.
« Verchizakti et lev paro veradav achareem veikabeda beparo bechol chelo veyadou mitzraim ki ani Hashem veyasuken. » Là, Dieu dit « Je vais faire en sorte que Pharaon revienne. » Bon, ça, c'est du point de vue de Dieu. Mais pourquoi Pharaon, lui, il décide de revenir ? Comment il se l'explique à lui ? Et comment il va expliquer ça à son peuple alors qu'on a dit qu'il a accepté, qu'il a été convaincu par les dix plaies que Israël doit sortir, doit être celui qui dévoile la Kadosh Baruch Hu dans le monde. Comment est-ce possible que maintenant, il revienne sur sa parole trois jours plus tard et qu'il veuille les poursuivre ? Eh bien ça, on verra la semaine prochaine. Eh oui.